des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous parlerons de l'eau, cet élément qui irrigue la littérature depuis son apparition. Souvenons-nous d'Homère chantant la mer violette ou vineuse, d'Apollinaire célébrant celle qui coule sous le pont Mirabeau, ou du magique Jean de Sponde associant l'eau à sa chair souffrante. Et la chair qui n'est qu'eau pleut des eaux sur ma flamme, mais ces eaux-là pourtant n'éteignent point ce feu. L'eau, elle irrigue aussi les romans de nos trois invités de la semaine, Didier Decoin, Rebecca Liguieri et Pierre Rofast. Une fable japonaise, un roman où il est question de surf et une épopée maritime et scientifique à la recherche d'une baleine solitaire. Bonjour Didier Decoin.
Bonjour Christophe.
Vous êtes à ma droite, prix Goncourt 1977 pour John L'Enfer. Vous publiez Le Bureau des étangs et des jardins chez Stock, un roman ample, épique, charnel, poétique qui nous roule dans les flots du Japon médiéval, puisque nous sommes au XIIe siècle avec une jeune veuve nommée Miyuki, veuve d'un pêcheur de carpes exceptionnel, tellement exceptionnel qu'elles sont fort prisées de la cour impériale. Elle doit leur livrer, comme chaque année son mari faisait. Elle a décidé de relever le gant. Mais voilà, elle est un petit peu expérimentée. Miyuki a la maigre silhouette d'herbe folle et elle va, ployant sous sa phalange de bambou lestée de donasses tapissées de glaise où tournent ses fameux poissons, affronter démons et créatures maléfiques, faux pèlerins et vrais voleurs, jusqu'à ce palais impérial où se déroule un concours de parfums. Que vous est-il arrivé, Didier Decoin, pour que vous décidiez d'explorer le monde flottant, comme on dit au Japon?
C'est une sorte de coming out, en fait. Parce que j'ai depuis longtemps une passion rentrée, secrète pour le Japon. Alors je nourrissais de lectures, de films. Même, c'est assez pervers, de musique, c'est une musique japonaise très longue. Bon, moi, je peux écouter ça pendant des heures en boucle, et je me suis dit un jour, je meurs d'envie d'écrire quelque chose qui me permette de raconter tout ça. Alors voilà, j'ai raconté l'histoire de la petite Miyuki.
12 ans, hein, c'est ça?
12 ans. J'ai mis 12 ans, ouais. Oui, mais c'est pour une raison toute simple, c'est que ça se passe, j'ai dit, l'an 1000, c'est loin déjà de nous, mais ça se passe dans un pays où rien n'est comme chaque geste de la vie quotidienne était différent, ouais, de ce que nous vivons.
Il y a les estampes quand même pour se avoir une idée.
Alors grâce à Dieu, oui.
Voilà.
Il y a les estampes, mais des estampes de l'époque du Genji.
Mm. Oui. Ah, le grand texte, c'est le texte fondateur de la littérature
romanesque, oui, moderne, peut-être plus encore que Homère. Mm. Parce que c'est une formidable histoire d'amour et tout est faux dans l'idée.
Homère aussi, Nausicaa, c'est pas rien quand même.
Oui, mais ce n'est pas que ça,
Calypso,
Homère.
Calypso, Circé.
Mais c'est pas que ça. Ouais. J'ai ma petite préférence, personnellement.
On reste dans l'eau, hein, d'ailleurs, avec vous, Rebecca Liguieri, évidemment. Alors, on vous connaît, je dis Rebecca Liguieri, on vous connaît sous une autre identité. Vous étiez venu, d'ailleurs, sous une autre identité. C'est formidable. Nous recevons ici des auteurs sous le... différents hétéronymes, hein, comme disait Pessoa, sous le nom d'Emmanuel Bayamaktam. C'était pour Je viens, vous étiez venu avec Virginie Despentes. Vous reprenez cet hétéronyme de Rebecca Liguieri. Il est né dans Husbands, c'est ça, ce roman.
Qui était un roman noir publié en 2013.
Noir et rose.
Très noir quand même, rappelez-vous, avec pas mal de cruauté, de perversion
voilà,
sexuelle.
Voilà, exactement, ouais. C'est pour ça que je disais rose,
ah, rose
en fait.
Oui, 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 oui. Vous pensez au candolisme.
Oui, tout à fait, ouais. Je cherchais le mot. Ouais. Alors ça s'appelle Les garçons de l'été, c'est publié chez POL, ce nouveau roman donc de Rebecca Liguieri. Il est question de surf, de deux grands garçons qui sont beaux, qui sont frères, Tadé et Zaché, qui pratiquent le surf à La Réunion au début. On va les retrouver aussi au Portugal, à Nazaré, connu pour ses spots avec le gros, hein, comme on dit, de grosses vagues. Ils sont à La Réunion quand s'ouvre le livre sur une très belle évocation de leur façon de glisser sur l'eau, de slider, pourrait-on dire, jusqu'à ce qu'un coup de fil réveille leur mère, restée à Biarritz, évidemment, Biarritz aussi, ville de surfeurs. Elle s'appelle Mylène. Et elle apprend, Mylène, que Tadé a été, ça m'a fait beaucoup de peine de lire ça, mordu par un requin. Et elle décide de se rendre sur place, et sur place va découvrir que Ce roman, d'ailleurs, et ce monde qui nous faisait penser à L'été sans fin, hein, le film culte sur le surf de 66, de Bruce Brown, L'été
non,
sans
j'ai
fin.
Pas vu, j'ai pas
voilà,
vu.
Des jeunes gens qui cherchent la vague ultime.
Parfaite. Ouais.
Parfaite. Bien, finalement, de cet univers un peu édénique, on va basculer dans un univers qui tient autant du drame biblique que de l'horreur d'un Stephen King. On pense à ça aussi, notamment à travers...
J'ai beaucoup pensé.
Voilà, bon, ça va. Notamment à travers le personnage de la petite sœur, qui s'appelle Isée. On découvre toute la famille. D'ailleurs, c'est un roman choral, hein. Chacun s'exprime à tour de rôle. Qu'est-ce qui a conduit Rebecca Ligieri, parce que voilà, là, je m'adresse à Rebecca Ligieri et pas à Emmanuel Bayamaktam, à se pencher sur l'art de la glisse, du surf. Vous connaissiez, vous étiez passionné
Alors,
par
non,
ça?
Non, pas du tout. Je n'ai jamais mis le pied sur une planche, mais ça m'a toujours fascinée. Hein. Je crois que c'est London qui disait que c'était vraiment un sport roi, fait pour les rois. Et il y a quelque chose de très majestueux et fascinant.
C'était pour les rois d'ailleurs en Polynésie
voilà,
au départ.
Effectivement. Alors après, non, je n'y connaissais vraiment rien, mais en même temps, voilà, tout en ayant le sentiment de m'aventurer sur un terrain très étranger, j'ai quand même pu transposer des sensations que j'ai simplement quand je nage, quand je plonge. Voilà, c'était pas complètement non plus...
On y reviendra, vous êtes documenté aussi. Hein,
je
beaucoup.
Me suis énormément documenté, je crois que j'ai dû voir des heures et des heures de vidéos de surf.
Et des magazines pour les termes
et
aussi.
Et j'ai lu, bien sûr, Surfers Journal.
Et on vous entendra lire d'ailleurs le début du livre. Alors, il y a plusieurs scènes de surf, mais justement, où se mêlent aux mots, disons, normaux, les termes, justement, très très précis du surf et assez poétiques au fond. Bonjour Pierre Rofast.
Bonjour Christophe.
Alors, vous êtes l'auteur de deux romans qui avaient été remarqués, d'abord par leur titre, ensuite par leur qualité, mais il y avait d'abord une qualité de titre. La fractale des raviolis suivie de la variante chilienne, c'était en 2014 et 2015. Titre surprenant comme le titre du roman que vous publiez aujourd'hui. La baleine thébaïde, c'est chez Alma. C'est une sorte de thriller, un peu d'ailleurs. Il y a du roman de genre aussi, comme chez vous, Rebecca Ligieri. Plusieurs personnages parlent d'ailleurs aussi, roman choral, à tour de rôle. D'abord, le jeune Richeville, qui va revenir tout au long du roman, diplômé d'école de commerce, mais qui ne veut pas se lancer dans les affaires, et qui a choisi, lui, un petit peu idéaliste, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est appelé par les autres personnages, l'humanitaire. Il s'embarque sur un bateau, l'Hirundo, affrété par le Samaritano Institute of Research, un organisme dirigé par l'étrange docteur Alvarez, pour aller retrouver une baleine bleue unique en son genre, puisqu'elle émet des ondes différentes de celles qu'émettent ses congénères. Et donc elle vit dans une solitude complète, car ses congénères ne peuvent pas percevoir les signaux qu'elle envoie. C'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Oui.
Alors Richeville devient mousse de l'équipage, son responsable scientifique aussi, il signe tous les papiers, c'est important parce que ça conditionne la suite de l'histoire. Il va être le témoin d'un massacre écologique qui le laisse sans voix et le précipiter dans un autre monde où la mer est remplacée par les piscines californiennes et les baleines réelles par des petites baleines connectées. On est là dans l'univers des start-up. C'est le portrait d'un Candide que vous nous donnez dans ce roman aux accents à la fois épiques et burlesques. Moi, j'ai pensé à Molière. Qu'allait-il faire dans cette galère, le pauvre Rocheville?
Alors oui, c'est un peu ça en fait. C'est les désillusions d'un jeune homme qui est bien parti dans la vie, alors qui est un peu loser. Hein, il a eu aussi une enfance difficile et qui en fait fait l'apprentissage de la difficulté en fait de la vie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il y a une infinité de gris entre les deux. Et au travers de ses aventures, en fait, c'est ça qu'il va apprendre.
Oui, il y a une infinité de possibilités d'ailleurs aussi dans le roman. Hein.
Tout à fait. Oui. Et en fait, ces mésaventures vont. Oui, c'est ça. C'est vraiment un parcours initiatique où il va comprendre que voilà, c'est difficile. Donc, et il va aller de désillusion en désillusion sur les hommes, sur la vie.
Nous vous avons réunis autour du terme de l'eau, mais nous aurions pu choisir aussi l'initiation, car il s'agit aussi de mettre fin à certaines illusions aussi pour chacun de vos personnages, hein, n'est-ce pas Didier Decoin? Merci à tous les trois de participer à cette émission. Alors, Bachelard, le texte fondateur sur l'eau et les rêves, écrivait de l'eau qu'elle était l'organe du monde. Est-ce que c'est un élément dont vous diriez qu'il est plus inspirant qu'un autre pour un écrivain, Rebecca Ligieri par exemple?
Oh non, a priori pas. Mais moi, je sais que je voulais depuis longtemps.
T'es pas d'accord,
écrire.
De quoi?
Oui, tout est matière à inspiration. De toute façon, non. Moi, ce que je sais, c'est que je voulais faire entrer le paysage dans mon roman et je voulais écrire un roman bucolique ou un roman thalassique, pélagique, peu importe. Et voilà, il se trouve qu'effectivement, ça a été celui-ci. Mais l'eau ne m'inspire pas. pas davantage que la mousse, la feuille, la pierre.
Et vous venez d'utiliser deux mots, thalassique et pélagique, deux mots grecs pour dire l'eau.
Ouais.
Les grands fonds pour pélagique et thalassa, qui est le terme qu'utilise, entre autres, Homère, évidemment. Didier Decoin, vous n'étiez pas d'accord.
J'ai pas un seul de mes livres où il n'y ait pas d'eau. Alors, ça peut être simplement un fleuve, mais c'est très, très souvent la mer, l'océan, etc. Et sur ces eaux, il y a des bateaux.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le côté écrivain de marine.
C'est le côté passionné par cette espèce de coquille fétale, en fait, qui est un bateau. Moi, il suffit que je vois la couchette d'un bateau et je me dis, cette nuit, je vais dormir là-dessus, au milieu d'une immensité, avec sous moi une distance formidable, des abysses. Alors ça, c'est le bonheur absolu.
Mais ça interpelle aussi l'écrivain avant d'interpeller l'homme qui va dormir sur cette couchette.
C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'écris aussi. Donc,
mais disons, la rêverie, c'est propice cet élément-là aussi à vous.
Ah, je pourrais pas m'en passer. Pourrais pas écrire. Je me suis déjà posé la question, est-ce que je pourrais écrire un livre qui se passe au Sahara, par exemple, genre faire l'Atlantide de Pierre Benoît. Encore qu'il y a l'Atlantide dedans. Mais non, je ne pourrais pas. Le sec, le minéral, sont des choses qui ne m'inspirent pas du tout. J'ai besoin de la fluidité, peut-être aussi de l'hypocrisie de l'eau, parce qu'il n'y a rien de plus pervers, de plus piégeant que l'eau. Mais je suis né sous le signe des poissons. J'ai toujours entretenu plus qu'un flirt poussé avec l'élément liquide. J'adore plonger, j'adore nager. Mon rêve serait aussi d'avoir une fin comme les Vikings qu'on couchait sur des drakkars. Et on mettait le feu. Voilà, comme ça, le drakkar s'éloignait vers l'infini du large. Ça, ce serait le rêve de ma vie. Enfin, de ma mort, plus exactement.
Rebecca, Ligieri,
vous dire qu'en même temps, Didier Decoin, l'eau dans votre roman, c'est une eau douce, lourde. Ça n'est pas la mer. C'est une limoneuse, vaseuse.
Non, mais c'est déjà un peu.
C'est déjà l'eau.
C'est les prémices de l'eau. C'est de l'eau.
C'est l'âge de Pierrofaste. Dans la variante chilienne, j'ai beaucoup parlé de vin. Donc là, dans la Baleine Bay, je parle de l'eau. Je trouve que ça se complète bien.
Oui.
L'eau, c'est la vie. C'est l'origine de la vie. C'est 75% du globe, voire plus. Donc ça me semblait être un bon support.
Et nous, on est en combien 80
Plus de 80% d'eau.
Plus de 90% d'eau.
Et on grandit dans l'eau.
Et l'eau, c'est l'océan. L'océan, c'est l'immensité. Donc c'est la solitude. Et c'est un thème qui va revenir beaucoup dans mon livre.
C'est un portrait de cadre solitaire.
Tout à fait. Et l'eau, l'océan, c'était ça. C'était l'image de la solitude.
Est-ce que le fait de frayer avec l'eau, quand on écrit, a des conséquences aussi sur le style, finalement ? Est-ce qu'on se coule dans un style plus liquide que sec, comme vous disiez, Didier Decoin ? Parce que vous vous méfiez du Sahara et du minéral.
Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Ouais. Non, mais il y a un besoin de synonyme quand on se met à écrire sur l'eau. Moi, les écrivains maritimes me fascinent parce qu'ils arrivent. Bon, c'est pas comme les Inuits qui ont je sais pas combien de mots pour dire la glace, le blanc, la neige. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à trouver des métaphores inouïes pour raconter l'océan.
Pierre Rofas dit, l'un de ses personnages, qu'il faut être breton pour aimer regarder la mer. Sinon,
je pensais à ça parce qu'effectivement, moi qui viens de la montagne, de l'Auvergne, effectivement, la mer c'est plat, quoi. Il y a pas grand chose.
C'est des tubes.
Non, mais ça c'est sur la côte.
Le tube qui est un terme de surf.
Qui est, paraît-il, la figure ultime en surf. Hein, c'est ce moment où vous glissez dans la vague, elle se referme sur vous sans s'écraser. Mais justement, je me dis que j'ai pas tant...
C'est très souterrain, là, totalement, quand la vague vous enferme.
Je n'ai pas vécu cette sensation, paraît-il, orgastique. Mais je me rends compte que j'ai pas tant écrit sur l'eau que sur ces moments où l'eau cesse d'être l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait du surf de gros, les métaphores les plus couramment utilisées, c'est que la vague, c'est une montagne, c'est un immeuble. Et d'ailleurs, si on en tombe, on se fracture les membres. Et puis, il y a des moments aussi où l'eau est pulvérisée. On est dans les embruns, on est autant dans l'air et le soleil que dans l'eau. Donc, je suis pas sûre vraiment d'avoir écrit sur l'eau. Je suis pas sûre d'être complètement à ma place dans ce débat.
L'eau, finalement, contient tous les éléments, ce que vous êtes en train de nous dire, de sous-entendre. Alors, on va commencer avec vous, Didier Decoin. Vous publiez Le Bureau des Jardins et des Étangs, c'est chez Stock, et vous avez choisi une musique de film, la musique du film Princesse Mononoke de Miyazaki. Elle a été composée par Joe Hisaishi. On écoute. Thank you. que des petites gouttelettes, Didier Decoin. C'est la musique du film Princesse Mononoke, composée par Joe Hisaishi.
Qui est un génie.
Qui est un génie. Miyazaki aussi.
Oui, bien sûr. Mais quand je suis tombé sur la musique d'Hisaishi, j'en étais à 2 ou 3 ans de travail sur ce livre. Et je me suis dit, ça y est, c'est la bande originale du livre. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir de la musique.
Pour écrire.
Quand j'écris, oui. Qui me porte, qui m'aide à emmener mon illustration plus loin. Et véritablement, alors moi je connais tout Hisaishi maintenant, et c'est vraiment un compositeur hors pair.
Alors vous publiez ce bureau des étangs, alors des jardins et des étangs, hein, on va revenir sur cette terminologie, dans lequel vous donnez vie à une héroïne d'une grande puissance romanesque, puisqu'elle est, un, japonaise, deux, du 12e siècle ou en 1000, en fait.
Je dis c'est l'équivalent, en gros, ouais, de notre monde médiéval, donc de
c'est
l'an
ça,
1000.
C'est le 12e.
Mais c'est 1200. Oui, elle est du 12e.
L'époque
elle
Eian, est pas, c'est
Eian,
ça. Voilà.
Eian, qui veut dire un pays. Et la ville, Kyoto, s'appelait à l'époque Eian Kyo.
C'est ça. Donc japonaise, du 12e siècle, et veuve d'un pêcheur de carpes d'une beauté exceptionnelle. Donc elle a quand même beaucoup d'atouts. D'ailleurs, ces carpes sont tellement exceptionnelles qu'elles sont destinées à la cour impériale. Vous prêtez existence à cette... Elle est encore jeune, elle a presque 30 ans. Hein,
oui, elle a 26-27 ans. Ça. Elle est très jeune pour moi. Hein, je la vois ravissante en plus, bien sûr. Je dis c'est un peu une espèce d'herbe folle comme ça, que le vent fait danser. Mais pour l'époque et pour le lieu où elle vit, qui est un village complètement paumé dans le fin fond du
Japon...
C'est
la fin de la vie.
C'est en tout cas plus que le mi-temps de la vie. Ouais. Elle commence à faire un bilan.
Voilà, parce que le travail, effectivement, qu'elle fait, qu'elle va faire, hein, puisque son mari, qui était le pêcheur, meurt. Donc, elle décide de reprendre, finalement, le métier, puisqu'évidemment, le village, s'il ne reprend pas le métier, perd une source de richesse, donc c'est terrible. Donc, elle le fait. Et on va la suivre, Miyuki, puisque c'est son nom, sur le chemin de la cour impériale, avec, une palanche, je crois que c'est ça le terme. Elle porte deux grands vases ou deux grandes corbeilles pleines d'eau. Alors je sais pas.
Une sorte de grande perche de bambou avec les nœuds. Il faut penser aux nœuds parce que quand ça ripe, évidemment, ça écorche. Grande perche de bambou et aux deux extrémités, il y a des paniers qu'elle a entièrement tapissés de terre glaise pour les étanchéifier.
Ouais.
Voilà. Et puis elle a mis de l'eau dedans. Et puis elle a mis des carpes. Son mari lui, il transportait 20 carpes, 10 dans chaque panier. Elle n'a pas la force de ça. Alors elle va se contenter de 8 carpes, 4 et 4. C'est un effort considérable parce qu'elle va faire 400 kilomètres à pied, chaussée de sandales de paille, pour atteindre la ville impériale dans des conditions climatiques et géographiques. Elle va escalader des montagnes. Enfin, c'est redoutable son voyage.
Et spirituel, compliqué, puisque vous faites intervenir les kami, donc les divinités, les démons. 800 000
dieux. Alors, ils sont partout, hein.
Ouais.
Ils sont dans une sandale oubliée sur le bord du chemin. Ils sont sous une pierre. Ils sont plutôt gentils, d'ailleurs, les kami. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'elle est à une époque, ça continue aujourd'hui, mais où la religion shintoïste et le bouddhisme cohabitent parfaitement. Quelle leçon pour nous.
Ouais, exactement.
Deux religions qui ne sont pas les mêmes.
C'est rare en ce moment. Alors, elle arrive à la cour, dans un étrange tournoi de parfums, où il s'agit de reconstituer l'odeur d'une jeune femme sur un pont de bois. C'est ça, celui qui réussit ça gagnera le tournoi. Et elle rencontre un drôle de personnage dénommé Nagusa, le directeur du bureau des jardins et des étangs, à qui elle doit livrer ses carpes qui sont destinées à peupler en fait les plans d'eau du palais impérial, mais elles servent aussi à méditer en fait ces carpes.
C'est-à-dire qu'elles vont aller dans les étangs qui sont au pied des temples. Donc les pèlerins, les religieux vont regarder ces étangs comme on regarde les jardins secs, vous savez, c'est les jardins de gravier qui sont ratissés selon des rituels très importants. Et évidemment, les carpes participent de cette fascination pour l'au-delà, pour le spirituel.
Et ce bureau des jardins et des étangs existe?
Il a existé, c'est-à-dire qu'il s'appelait soit office, nous je crois que nous dirions aujourd'hui ministère, car c'est un petit peu la fonction que ça avait. Nagusa est le chef il s'occupe de la table de l'empereur, fournir des légumes, des fruits à la table de l'empereur, et il s'occupe aussi des carpes qu'on met dans les étangs. Carpes qu'on ne mange surtout pas, elles sont sacrées comme les vaches sont sacrées en Inde. Hein.
C'est même la carpe l'un des motifs les plus importants de tatouage d'ailleurs.
Absolument.
Je pense c'est la force, hein, la carpe. Hein.
La
koi.
Ouais. Alors les deux animaux emblématiques du Japon sont la carpe et la grue.
On vous écoute, Didier Decoin, lire un extrait de ce bureau des jardins et des étangs. On va suivre Miyuki qui descend dans le comment appeler ça d'ailleurs le bac, la piscine,
il y a un bassin que son mari a creusé, voilà. Pour quand il va chercher des carpes dans les rivières, après ça il les met en acclimatation dans le bassin. Après avoir préparé les baquets, Miyuki sélectionna les carpes qu'elle allait y transférer. Elle choisit d'abord celles dont la disposition des écailles formait un maillage uniforme et harmonieux, et dont le nez, sans être allongé, n'était ni trop court, ni trop trapu, dont les nageoires étaient symétriques et la couleur parfaitement homogène du museau à la queue. À partir de ce premier tri, elle préleva deux carpes noires et deux poissons d'un jaune assez terne, mais dont la croissance et la longévité étaient souvent remarquables, puis deux sujets d'un bronze profond dont la luisance évoquait une coulée de miel brun, et elle compléta son florilège avec deux carpes presque dépourvues d'écailles qui semblaient gainées de cuir. Elle les saisit à la main, aussi patiente et habile que Katsuro, une capture qui ressemblait à une caresse. Elle avait attendu la nuit pour se dénuder et descendre dans le bassin, recroquevillant ses doigts de pied comme des petits crochets pour ne pas déraper sur le fond gluant. Ne sachant pas nager, immergée dans l'eau jusqu'à la taille, elle risquait de se noyer en cas de glissade ou de chute. Elle avait commencé par longer prudemment les berges du vivier. Ses genoux, ses cuisses, son pubis ridant l'eau noire, brouillant le reflet de la lune qui fuyait devant elle. L'eau était glacée. L'obscurité l'empêchait de voir les poissons, mais elle sentait leur présence à leur frôlement, à la palpitation légère de leurs nageoires contre ses jambes. Elle avait l'impression de marcher au milieu d'un vol de papillons froids.
Merci Didier Decoing. Donc c'est un extrait du Bureau des Jardins et des Étangs, votre nouveau roman publié chez Stock. Alors, c'est très très sensuel. La sexualité, d'ailleurs, c'est un roman où la sexualité est très présente. Hein. C'est un leitmotiv, d'ailleurs, dans les souvenirs troublés de Miyuki, qui évoque Katsuro, donc son époux mort. Et c'est une sexualité qui est souvent liée à l'eau. Hein. C'était la façon dont elle jouissait, écrivez-vous, qui ressemblait à la glisse douce de la Kusagawa, qui est la rivière, sur son lit d'herbe mouillée. Vous parlez du sexe de Katsuro, qui a une saveur de poisson cru. Tout ce qui a trait au sexe est ramené à l'eau. Et même l'idée de souillure et de purification, parce que Miyuki, elle est entre cette sexualité-là aquatique et aussi la peur d'une souillure qu'il faudrait effacer grâce à l'eau. Donc l'eau joue tous les rôles.
Oui, elle est très importante parce que c'est un village de pêcheurs. Donc ils vivent de l'eau, dans la présence constante de l'eau. Alors il y a non seulement la rivière qui coule, mais il y a des averses redoutables, presque des déluges. L'eau transforme le paysage, rend les chemins glissants. Et Miyuki va affronter ça pendant tout son voyage. Sa relation à l'eau est une relation d'amour et de haine.
Alors, vous n'êtes jamais allé au Japon, Didier.
Ah non, parce que ce Japon-là n'existe plus.
Voilà, mais vous auriez pu dire, je vais aller m'imprégner peut-être de, on parlait des montagnes tout à l'heure, ou de certains paysages qui peut-être sont restés un petit peu les mêmes. Mais précisément, vous expliquez ça, vous ne vous en cachez pas d'ailleurs, mais vous avez accompagné ce livre d'une longue bibliographie, hein, vous le dites, bibliographie abrégée des ouvrages sans lesquels je n'aurais jamais pu écrire ce livre. Alors, on y trouve un conte traditionnel japonais, on y trouve le Dit du Genji, vous en avez parlé tout à l'heure, des poèmes de courtisanes, et aussi des estampes. Hein, les notes de chevet, par exemple, de Shei Shonagon, absolument magnifique, sublime. Au fond, Didier Decoing, la littérature ou les estampes, c'est-à-dire la vision d'un autre, d'autres au pluriel, est le meilleur des véhicules quand on s'embarque dans un roman pareil. On a pas besoin d'aller chercher par soi-même les sensations que vous convoquez dans ce roman.
Ça, les estampes, et notamment celles qui datent de l'époque du Didier Genji, d'époque de mon roman, ces estampes sont pures, elles ne sont pas souillées, par aucune modernité n'est intervenue. Quand vous regardez aujourd'hui un paysage, même à Kyoto, qui est quand même la ville impériale, il reste quelque chose de l'âme du Japon d'autrefois. Il y a tout de même des réverbères, il y a du béton, ça n'a plus rien à voir. Tandis que les estampes, elles sont extrêmement fidèles et pures. Et moi, je me suis noyé, au sens évidemment symbolique du mot, dans ces estampes, dans ces mondes. Il n'y a pas que les estampes érotiques quand on parle du Japon. Il y en a d'admirables racontant tout simplement le voyage d'une espèce de porteur de portefeuille, de voyageur de commerce.
Alors, ces gens-là. Oui, il y a tous les métiers, d'ailleurs.
Tous les métiers. Oui. On les voit marcher sous la pluie dans des paysages magnifiques, mais pauvres en même temps. Il y a une espèce de petite auberge bancale avec des planches qui sont mal clouées les unes avec les autres. Et le type, il est tout, tout voûté, et puis il dégouline de partout. Ses cheveux ne sont plus qu'une espèce de on dirait des chiens mouillés. J'étais fasciné par tout ce monde-là que les estampes font surgir.
Et traduire donc le visuel en mots, en fait, ça a été ça finalement la...
Ça a été la véritable référence. Vous savez, j'adore la littérature japonaise. Je m'en suis jamais caché. Pour moi, il y a un dieu littéraire. J'ai d'ailleurs son portrait dans mon bureau. Il regarde par-dessus mon épaule et il couine quand ce que j'écris est vraiment mauvais. C'est Yasunari Kawabata, l'homme qui a écrit Les Belles Endormies et Le Grondement de la Montagne et plein d'autres choses. Mais il y a aussi toutes ces dames de cour qui ont créé le roman que nous connaissons, nous, et qui avaient des talents de drôlerie, en plus. C'est véritablement...
Le roman que nous connaissons, nous, c'est-à-dire, vous pensez...
La romanesque d'aujourd'hui, je veux dire.
Pour vous, il est né au Japon.
Incontestablement. Ouais, ouais. À ce moment-là. Alors, c'est vrai que les pauvres femmes, elles portaient des robes qui étaient tellement énormes, magnifiques, mais c'est 15 épaisseurs de soie, les unes sur les autres. L'armure d'un chevalier du Moyen-Âge, à côté, devait être une plume. Alors, elles étaient engoncées là-dedans, puis c'était des mètres et des mètres d'étoffe. Donc, on les posait quelque part, on ne pouvait plus bouger. Elles inventaient des histoires d'amour.
Il y a une très belle idée, je vous cite Didier Decoin, quand les carpes plongeraient, le fantôme de Katsuro disparaîtrait avec elles. C'est ce à quoi pense Miyuki donc, sur son cheminement initiatique, puisque le fantôme de Katsuro est présent tout au long du chemin. Mais Miyuki est consciente en fait, que ce n'est presque qu'une reconstruction de son esprit à elle. Elle sait qu'il n'a aucune vie propre, hein, elle le dit, ses réminiscences n'ont aucune consistance. Comme si elle savait qu'une fois le voyage fini, une fois les carpes livrées, elle serait libérée finalement de ce fantôme. Il y a quelque chose dans ce livre d'une malédiction à conjurer d'un monstre qu'il faudrait nourrir et qui après nous laisse tranquille.
Mais c'est-à-dire que c'est le fameux travail de deuil, en fait. Moi, j'ai toujours été bouleversé, puisque ce sont souvent les femmes qui survivent à leur mari. J'ai rencontré beaucoup de veuves, plus ou moins jeunes dans ma vie, et j'ai toujours été mais profondément ému par leur détresse et les moyens qu'elles employaient pour la juguler, pour essayer de vivre et de sourire quand même. Je revois comme ça une femme, j'étais très très jeune, encore enfant même, qui avait perdu son mari, qui était vêtu de noir et qui avait un sourire magnifique, mais on sentait qu'il cachait une douleur extrême. Et c'est exactement ce qu'éprouve Miyuki. Elle est capable de sourire, elle est capable d'être heureuse, enfin en tout cas de faire semblant d'être heureuse, mais seulement quand elle aura achevé son travail de deuil, elle sera renouvelée, elle sera neuve, elle pourra affronter de nouveau la vie.
Mais qui est liée aux carpes, hein, toujours.
Liée aux carpes.
Quand les carpes plongent, au fond là, la libération arrive par ce plongeon
de la carpe.
C'est,
voilà. C'est une sorte d'incarnation fantomatique, spectrale de ce qu'était son mari. Mais elle a besoin de la présence du mari pour faire son voyage.
Alors il y a une présence spectrale chez vous aussi, Rebecca Ligieri, un monstre aussi, hein, ce n'est pas une carpe, c'est un peu plus gros qu'une carpe. C'est un requin qui est présent dans ces garçons de l'été, qui est chez vous. Il fallait absolument le requin pour les surfeurs.
En tout cas, c'est de là où je suis partie. Hein,
ce deus ex machina, en fait, qui ouvre le drame.
Effectivement, ce requin qui arrache la jambe de Thaddée. Et c'est vraiment l'épisode fondateur à partir duquel toute la famille va un peu se déliter.
Roman de surf, roman d'une famille bourgeoise qui se délite, apparition de phénomènes étranges à travers les yeux d'une petite fille, présence du mythe aussi, des frères qui s'entretuent, Abel et Cain ne sont pas loin. On va en parler tout de suite avec vous de ces garçons de l'été, mais d'abord on écoute votre choix musical. Alors, AR, Wondering Why, qu'est-ce que c'est ce...
C'est de la musique de surfeurs, hein. C'est un duo de beaux gosses américains qui fait de la musique pour surfeurs et de surfeurs. Regardez leurs clips, vous verrez en général, il y a une planche et l'océan.
Beach Boys, 21e siècle.
Exactement, quoi. Et c'est ce que j'écoutais en écrivant Les Garçons de l'été.
D'accord, donc après Miyazaki et Princesse Mononoke, la bande originale du bureau des jardins et des étangs, la bande originale des Garçons de l'été de Rebecca Ligieri.
Nobody knows, and I keep my mind. The favorite past. summer's the fast kind, but I got to slow it down. She's still recovering for last time. Somehow we ended up sun up with that shine. Bad movie style, it don't ever end my day, cause it's a skirt chasing women. Get back, go swimming, pushing the limits, and I'ma go hard until the ground. I'm in it. Get faded, but this will never fade away. Our game will have to wait today, despite the class or rain delay. Wanna real why? She caught me by the eye, moving and pursuing while she with another man. I never let it go. I hope nobody knows, and I keep my mouth.
Wondering Why, c'est le choix de Rebecca Alighieri qui publie Les Garçons de l'été chez POL. C'est donc Rebecca Alighieri, des surfeurs, c'est une chanson de surf en fait.
Oui,
de boys surf band.
Oui, je crois même que j'en parle dans le récit. Il y a une fête de surfeurs, ils écoutent ça, ils se disputent d'ailleurs pour savoir quelle chanson ils vont mettre. Mais...
Ils fument beaucoup aussi de substances, il y a ce côté-là aussi.
Que j'en parle tant que ça, oui, on est à La Réunion, donc ils fument du Zamal. Oui,
voilà,
forcément.
Exactement, du Zamal. Alors dans Les Garçons de l'été, on rencontre deux beaux garçons appartenant à une famille bourgeoise de Biarritz, les Chastains, tout ce qu'il y a de bien sous tout rapport. Alors, il y a un peu d'adultère du côté du père,
oui,
Jérôme.
Père pharmacien avec une vieille maîtresse. Ouais.
Voilà, mère qui s'appelle Maude, c'est la vieille maîtresse. Une mère qui a quitté son travail pour élever ses enfants, dont elle est très fière. Alors il y a deux garçons, puis il y a une petite fille qui s'appelle Isée. Les enfants s'appellent Tadé et Zaché. Alors c'est un peu... Tadé, le destructeur, le plus flamboyant, le plus agressif, c'est tout ça, il est très souterrain. Puis Zaché, le frère aimable, positif, lumineux. Isée, c'est la petite sœur qui semble à un moment, vers la fin du livre, mais avoir une sorte de science particulière liée au surnaturel. Alors ce ne sont pas les Camilles de Didier Decoin, les divinités japonaises, les démons ou les naïades japonaises, mais un clown grotesque qui apparaît. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est à la fois le fond de surf très précis, et je voudrais vous interroger là-dessus, c'est-à-dire que les mots du surf sont là, l'ambiance solaire est là, les vagues, vraiment on y est, puis on va vous entendre lire Rebecca Alighieri, que finalement cette dimension obscure, reliée d'ailleurs à une forme de mythologie du mal, des grands récits, on pense aux grands récits bibliques, aux grandes tragédies, qui fait que un frère va s'en prendre à l'autre. Après cet accident de requin, celui qui est touché parce que sa jambe a été enlevée se voit diminué, amputé, et ne va pas supporter finalement que le frère continue à sillonner les vagues, à les chevaucher. Comment vous avez fait, Rebecca Alighieri, pour aller justement puiser ce lexique du surf, l'instiller dans votre prose habituelle, si je puis dire?
J'ai beaucoup travaillé. C'était même la partie la plus pénible de l'écriture de ce livre. Alors, j'ai interrogé des surfeurs, et je les remercie. J'ai lu, parce qu'il y a une littérature du surf. Alors, j'ai lu des magazines de surf. J'ai regardé des heures et des heures de vidéos de surf, je tiens à le dire. Et quant au lexique, bon, il est facilement disponible sur Internet. Alors, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai laissé arriver en anglais dans ma prose, sans traduire. Parce qu'effectivement, vous le disiez un peu tout à l'heure, je pense que ça crée quelque chose de poétique dans le récit. Et voilà, le temps de l'écriture de ce livre, j'ai été une spécialiste du surf. Mais c'est un savoir très volatile, qui disparaît assez vite.
Je voudrais qu'on vous écoute lire Tadé. Donc, chacun des personnages de la famille s'exprime, et les amis aussi, s'expriment à tour de rôle. C'est le début du livre. Rebecca Alighieri.
J'ai embrassé l'aube d'été. Mieux, je l'ai épousée, je n'ai fait qu'un avec elle. Je n'ai fait qu'un avec le ciel, virant du rose au bleu. Avec la lumière, encore fragile, mais qui promettait un temps caniculaire. Je n'ai fait qu'un avec la houle, avec l'écume, avec l'eau qui clapotait autour de ma planche. J'étais à la gravière, de loin mon spot préféré dans les Landes. Septembre, en commençant, avait vidé les plages de tous les estivants, ne laissant au line-up que des locaux, comme moi. Et d'ailleurs, ce matin, même les locaux étaient restés au lit. À l'eau, nous étions six. Six qui avaient voulu profiter de la marée montante, et je les connaissais tous les six. J'étais arrivée sur la plage vers 5h avec Swan. La houle était très grosse et on s'est pris des bombes de tous les côtés, dont des vagues vraiment bizarres, presque mutantes. On a d'abord encaissé pas mal de wipe-out, et puis ça s'est miraculeusement cliné. Les vagues se sont mises à rentrer par séries, creuses, puissantes, super longues à dérouler, de vraies rampes de lancement. Il y en avait pour tout le monde, et je prenais autant de plaisir à voler au-dessus de la vague qu'à regarder les autres réussir leurs aerials. Ce jour-là, à la gravière, le cosmos s'était mis en phase pour nous et tout le monde avait la grâce.
Voilà, Swell et Cosmos dans le livre de Rebecca Ligieri, Les garçons de l'été. Alors, évidemment, on voit hein, ce que font ces petits mots qui sont tout à fait... Alors, pas, ça introduit des petites notes d'étrangeté, mais finalement, bientôt une familiarité, puisqu'il va être beaucoup question de surf. Je voulais que vous lisiez ce passage, parce qu'il se termine par le mot « grâce », et précisément, en fait, votre livre énonce le contraire de la grâce, c'est-à-dire la plongée dans un abîme. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu toujours l'ambivalence de l'eau, quoi. C'est-à-dire à la fois cette beauté sublime, et puis finalement, on en parlait des eaux troubles pour vos carpes, Didier Decoing. On en parlera avec la baleine aussi de Pierre Rofast. Mais finalement, vous aviez besoin de placer vos personnages dans le soleil et dans cette mer qui poudroie pour mieux aller titiller le côté obscur.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, cette ouverture, c'est une fausse piste. Hein, cette ouverture radieuse, lumineuse, en plus, finalement, racontée par Thaddée, qui est le personnage le plus sombre du récit. Donc, c'est vrai que le surf, le soleil, les embruns, le vent, la houle, c'était le contrepoint lumineux à cette noirceur qui est dans le personnage central, qui est Thaddée.
Il aime, presque qu'au profil.
Il est scatophile, je comptais pas précisément en parler, mais puisque...
Mais si, non, moi, je trouve ça passionnant parce que justement, on s'attend à tout de la part de ces êtres solaires, là, mais pas à cette, qui plonge dans cette souillure-là.
Ah oui, mais Thaddée n'aime que ce qui est horrible, laid, répugnant.
Et sa fin est incroyablement terrifiante.
Il a la fin qu'il mérite, à mon sens.
Mais... Oh, il est dur avec lui.
Bon, il fait quand même des choses abominables, donc il est bien puni. Voilà, donc effectivement, le surf, c'était aussi des moments de soulagement, parfois, d'écrire ces sessions, de raconter ces sessions, par rapport à, effectivement, aux pulsions, au sadisme, à la volonté d'humiliation qui est présente chez Thaddée, qui est vraiment le noyau dur et le noyau sombre du récit.
On dirait, et là, évidemment, je vais poser la question du pseudonyme, de l'hétéronyme. Vous aviez inventé cette auteur Rebecca Ligieri pour Husbands, qui était un roman très noir, où il était question aussi de sexualité. Didier Decoing l'a parlé de coprophilie du côté de Thaddée. Est-ce que l'auteur Rebecca Ligieri permet d'aller chercher justement la noirceur, même si elle est dans l'eau, hein, dans cet univers aquatique, beaucoup plus que l'auteur Bayamak Tam, qui est Emmanuel, qui est votre vrai nom, qui n'est pas un pseudonyme
qui est mon vrai nom, oui. Ouais. Alors, cela dit, les livres que je publie sous mon vrai nom ne sont pas particulièrement gais et limpides, mais c'est vrai qu'avoir ce pseudonyme, ça me désinhibe, même si j'assume les livres que j'écris sous pseudonyme, et ça me permet de m'aventurer sur le terrain de l'homicide d'abord, parce que c'est quelque chose que je ne me permettrais pas quand je publie sous mon nom, de la noirceur et des... Alors, plutôt que de perversion sexuelle, j'aime autant parler de paraphilie, mais c'est vrai qu'il y a la coprophilie chez Thaddée. Bon, ça prend quoi, 10 lignes?
Non, mais ça n'a pas échappé.
Ça n'a pas échappé à Didier Decoing. Et puis, il y avait donc le candolisme dans Husbands. Donc, c'est vrai que, voilà, je vais sur des terrains peut-être un peu plus mouvants, un peu plus sombres.
Mais alors, vous avez pris un pseudonyme féminin, parce que plutôt de la part d'un homme qu'on attend ce genre d'audace et de...
Oui, la question s'est posée d'ailleurs de prendre un pseudonyme masculin, c'est vrai.
Mais je pense qu'il y aura d'autres pseudonymes. Donc pourquoi voilà.
Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un écran de fiction supplémentaire.
Voilà, c'est un degré de fiction supplémentaire. Et maintenant, je me dis que j'aurais dû commencer par là. D'ailleurs, j'aurais dû publier sous pseudonyme dès le départ.
Pourquoi? Vous regrettez d'avoir utilisé votre vrai nom?
Bon, cela dit, ça n'a jamais été gênant, mais parce que finalement, ça. La posture de l'écrivain, qui aurait une cohérence, une unité, une hégémonie, enfin, ça me dérange un peu. Donc finalement, être Rebecca, Emmanuel, et puis voilà, j'ouvre la porte à d'autres hétéronymes, ça me va.
Une question quand même sur cette présence du mythe, évidemment, quand on lit cette histoire, Thaddée et Zachée, on pense évidemment à Abel et Caïn, on peut penser aussi à Éthéocle et Polynice, enfin il y a des couples comme ça de frères, l'un tué par l'autre, sont très présents dans la littérature et dans les grands mythes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, de faire résonner... Il y a d'autres mythes beaucoup plus pop culture hein, à la fin du livre, puisqu'on voit le clown qui fait penser au livre de Stephen King.
Qui fait penser... Ça, oui.
Des esprits frappeurs à Shining.
On pense aussi, j'espère, en tout cas, moi, j'y ai pensé. Je les ai même nommés, je pense, aux films de fantômes japonais. Donc, effectivement, il y a d'autres mythologies que la mythologie biblique ou antique dans Les Garçons de l'été. Mais oui, c'est un roman de la jalousie quand même. On veut à Zaché de faire ce que lui ne peut plus faire.
Vous parliez d'autres pseudonymes à venir, c'est-à-dire qu'au fond, c'est aussi un véhicule d'exploration pour d'autres genres romanesques.
Oui. Ouais. Alors, même si finalement je me situe sur le terrain du roman noir quand j'écris sous le nom de Liguéry, alors c'est vrai que c'est une appellation un peu fourre-tout parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on entend par là, mais effectivement, le choix du pseudonyme va avec la volonté d'être sur un autre terrain.
Rofast n'est pas un pseudonyme.
Non, non.
Est-ce que ça pourrait sonner aussi avec ce côté, ça pourrait même être un pseudonyme de surfeur avec le côté fast.
Alors c'est un
la glisse.
C'est un patronyme qui vient de l'Ariège.
Vous n'avez jamais songé, vous, à prendre un pseudonyme
Non. En fait, la question ne s'est pas posée. Quand j'ai publié La Fractale des Raviolis, j'ai pas eu cette idée-là. Ouais. Peut-être demain, pourquoi pas, pour explorer de nouveaux horizons. Ouais. Mais, non.
Il y a déjà des idées de titres tellement formidables. La Fractale des Raviolis, c'est fabuleux. Comme
magnifique.
Titre.
Mais celui-là est pas mal. Hein. La baleine thébaïde.
C'est pas
j'aime
mal.
Beaucoup.
Mais La Fractale des Raviolis, ça, c'est un truc que j'oublierai jamais.
Je me suis demandé ce qui vous inspirait, Pierre Rofast. Moi, je me suis amusé à ce jeu avec vous, Rebecca Liguéry. C'est vrai que Stephen King, il apparaît assez vite. Hein, oui. On décode très bien. Et aussi, évidemment, les grands mythes bibliques. De votre côté, qu'est-ce qui vous inspire? Parce que vous citez Gautier. Par exemple, la thébaïde vient d'un poème de Théophile Gautier. On trouve ça aussi chez Huysmans. Hein, il en parle beaucoup dans À rebours, mais c'est tellement sur des univers totalement différents. On passe de l'univers de la start-up à un univers un peu moby-dickien, perturbé avec cette histoire de la baleine. Le mythe aussi est là avec Jonas. Qu'est-ce qui vous inspire pour nous donner autant de livres qui sont pas seulement surprenants par leur titre, mais par l'emboîtement des intrigues, l'insolente liberté dont vous faites preuve?
Alors déjà, je pense être très curieux, c'est-à-dire je m'intéresse à beaucoup de choses, beaucoup de domaines, que ce soit les sciences, la littérature, les arts, etc. Et ça nourrit mon imagination, parce que mon imagination ne se crée pas comme ça. Je suis beaucoup inspiré de ce que je vois, ce que je lis, ce que j'entends.
De qui, pour cette baleine thébaïde?
Alors la baleine thébaïde, en fait, la baleine 52 dont on va reparler, est une baleine qui existe. Elle est plus connue aux États-Unis, il y a eu des reportages sur ça, et ce qui a entraîné une très grande empathie des téléspectateurs américains. Elle est pas trop connue en France. Et en fait, je l'ai découverte il y a quelques années dans Science et Vie, je crois, où il y avait un article sur ça. Et je me suis dit, tiens, si je veux un jour écrire sur la solitude, c'est sur ce personnage emblématique, puisque la baleine, en plus, est un animal empathique. Tout le monde, il y a une grande dose de sympathie parmi les lecteurs. Et il y a l'océan, on en a parlé tout à l'heure, la solitude, et c'est un très bon support. Donc oui, je m'inspire de beaucoup de choses, je suis curieux, je grignote un peu partout. Et surtout, l'inspiration se fait un peu tous les jours. Hein. C'est pas du tout devant mon clavier que j'ai l'idée. Génial.
Alors, La baleine thébaïde, donc étrange titre pour un étrange roman, mais très très à la fois drôle et puis très très connecté sur l'époque qu'on est en train de vivre, justement, avec cette obsession et du business et de la haute technologie, des enjeux écologiques aussi, vous nous en parlerez. Ça commence comme une épopée maritime, on pense évidemment à Moby Dick, puisqu'un personnage s'embarque sur le navire d'un capitaine très étrange qui veut aller donc chercher cette baleine 52. Et puis, juste avant, quand même, une petite ouverture sur une piscine où s'ébattent une starlette et un homme politique. Et donc, évidemment, là, moi, j'ai pensé à Marilyn Monroe et JFK, hein, et ces histoires de piscine qui ont eu lieu. Votre personnage s'appelle Principal, même s'il y en a d'autres, s'appelle Richeville. Il sort d'une école de commerce, mais il ne veut absolument pas faire d'argent. Il choisit l'humanitaire. Et vous allez, en donnant la parole, comme Rebecca Liguéry d'ailleurs le fait, successivement à chacun des personnages de cette étrange équipée, nous emmener dans des expériences scientifiques, certaines réelles, certaines inventées, sur la mer, donc à bord de ce bateau, et puis du côté des États-Unis, avec ces piscines où vous imaginez une sorte de petit robot connecté en forme de baleine que commercialise en fait ce personnage de Richeville qu'on découvre. Je ne vais pas raconter, évidemment, tout le livre, mais qu'est-ce qui vous a d'abord conduit, vous parliez de Science et Vie, à cette baleine?
Alors, Je pense que ce qui m'a marqué, c'est l'époque scientifique des années 70, où il y a eu énormément de bouleversements, énormément de nouveautés. L'homme a découvert, a fait des progrès incroyables en électronique, en informatique, en génie génétique. Et en fait, c'était une période un peu sans contrôle, sans vraiment règles, où on pensait que l'homme pouvait tout faire, pouvait tout se permettre. On a même fait des expérimentations sur des armes météorologiques, donc au Vietnam. Donc il y a eu énormément de choses. Et à la fin des années 70, il y a eu un peu le holà. La communauté scientifique s'est dit, oulala, on peut pas faire n'importe quoi, notamment sur les transgénèses humaines, animales, etc. Et je pense que c'est cette période-là un peu folle qui m'a marqué, qui m'a dit, et je me suis dit, il faut que j'écrive sur ça. Il faut que j'écrive sur ça, un peu pour montrer l'absurdité, enfin, ou les abus que pourrait mener la science, tout en la connectant avec cette idée aussi, encore une fois, de solitude, en fait. Cette grande différence entre le monde hyper connecté dans lequel aujourd'hui, très scientifique, etc., et la détresse et la solitude de pas mal de contemporains.
Précisément, on va écouter votre choix musical, Détresse, solitude. Moi, en tout cas, c'est à ça, même si c'est aussi la beauté qu'il convoque, qu'il me fait penser, c'est Leonard Cohen, Everybody Knows.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows.
Everybody Knows de Leonard Cohen, c'est le choix de Pierre Rofast qui publie La Baleine Thébaïde, c'est chez Alma. Que vient faire Leonard Cohen ici, Pierre Rofast?
Alors déjà, j'aime beaucoup Leonard Cohen et sans rouvrir la polémique, j'aurais bien aimé qu'il ait le prix Nobel.
Complètement d'accord. Ça, c'était un bon choix intelligent.
Avis de Didier Decoing.
Et deuxièmement, bah, cette chanson en particulier parle d'aider son pipé, le capitaine ment, etc. Et je trouve que ça allait très bien dans ce que découvre Richville, le personnage principal, l'initiation où il s'aperçoit que le bien, le mal, ça n'existe pas, que le monde est un peu biaisé dans lequel on vit, que les règles du jeu qu'il apprend sont dures. Et c'est la thématique de cette chanson. Hein,
quand c'est un récit initiatique, vous diriez, la baleine thébaïde?
C'est en partie un récit initiatique, oui, je peux le revendiquer. Ça, ouais.
Alors expliquons le titre. Une thébaïde, c'est un lieu sauvage où l'on va se recueillir, ou en tout cas assez associé à la misanthropie, par exemple dans Un rebours de Huysmans, le lieu où s'enferment des essaintes, c'est une thébaïde. Vous citez, vous, un poème de Théophile Gautier, dans la forêt de pins parmi les âpres roches, où n'arrive pas même un bruit lointain de cloche, dans quelques thébaïdes, aux lieux les moins hantés. Il s'est imposé rapidement ce terme?
Pas vraiment, non. C'est effectivement une recherche pour le titre. Et d'une part, j'ai bien aimé ce mot. Je trouvais qu'il allait très bien, un synonyme de solitaire ou d'endroit un peu secret où on va se recueillir. Le jeune Richfield, d'ailleurs, quand il est jeune, il est forcé à la solitude nocturne parce que sa mère s'est remariée et il a une solitude forcée. Et je trouve que ça allait bien avec ça, ouais.
Et c'est le portrait de quatre solitaires, en fait, hein, qui prennent tour à tour la parole.
Tout à fait.
Chacun dans son domaine de solitude.
Dans des formes très différentes, effectivement. La solitude intellectuelle, il y a la solitude amoureuse, il y a la solitude physique. Donc j'ai essayé d'explorer ces formes de solitude qui est un thème omniprésent dans la société d'aujourd'hui.
Tout ça s'incarne dans une formidable allégorie qui est cette baleine 52. J'aimerais qu'on vous écoute lire un extrait de la baleine thébaïde que poursuit l'équipage de l'Hirundo. On vous écoute, Pierre Rofast.
C'est une baleine bleue unique au monde. qui chante à une fréquence de 52 Hz, là où toutes ses camarades chantent entre 12 et 25 Hz. Pour un béotien comme moi, cela ne signifiait pas grand-chose. La recruteuse m'expliqua alors la portée dramatique de cette différence. Les baleines chantent pour retrouver leurs congénères et pour s'accoupler. L'océan est vaste, mais leur chant porte loin. Elles se retrouvent ainsi. Cette baleine 52 n'émettait pas à la bonne fréquence. Aussi, aucune autre baleine dans l'océan ne percevait ses appels. Elle criait depuis des années dans le vide, solitaire et abandonnée de ses pairs. Paradoxalement, malgré son chant, personne n'arrivait à la localiser. Elle sillonnait l'Atlantique Nord depuis 1989. Les scientifiques américains s'étaient d'abord interrogés sur l'origine de ces ondes. Est-ce un sous-marin russe, une sonde, un animal marin inconnu ? Le suivi de ces mouvements sur plusieurs saisons et sur des milliers de kilomètres permit d'identifier le comportement d'une baleine bleue. Année après année, la fréquence de son chant diminua légèrement, signe caractéristique du vieillissement d'un être vivant. Mais alors, comment expliquer sa différence ? Est-ce une nouvelle race, jusqu'alors inconnue des hommes ? Est-ce un hybride de rorqual ? À cette époque, les scientifiques n'avaient pas la réponse. La baleine 52 était déjà une star aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas en France. Son isolement, largement médiatisé et scénarisé, avait ému des millions d'Américains. Des documentaires télévisés larmoyants racontaient sa solitude et ses complètes ignorées lancées depuis la profondeur de l'océan.
Merci Pierre Rofas pour cet extrait de la baleine thébaïde que vous publiez chez Alma. Alors, on est surpris par cette présence du mythe marin, hein. On pense à Jonas, on pense à Moby Dick, en principe signe de puissance marine colossale, mais dont vous faites un monstre empêché, une baleine solitaire vouée à disparaître, unique, et qui d'ailleurs disparaîtra dans un massacre abominable. Je dis massacre par son ampleur, puisque la mer se recouvre de sang rouge et de morceaux de chair. Quel sens donner à ce monstre affaibli ?
Alors déjà, c'est la baleine sœur de Richville. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que Richville, dans son enfance, était très solitaire, un enfant mal aimé de ses parents, ou un peu abandonné. Et quand il apprend l'histoire de cette baleine solitaire, il s'identifie immédiatement, il reconnaît en elle cette baleine sœur. Et la baleine, avec son destin tragique, incarne justement la folie des hommes, la folie scientifique.
Ce roman, Pierre Rofas, donc, a priori, à première lecture, très drôle, c'est aussi un moyen d'alarmer sur les dérives scientifiques et technologiques que nous vivons parfois. Au fond, Horace disait, la littérature a deux buts, elle doit enseigner et plaire, docere et placere, c'est ça là, aussi.
Très jolie phrase, oui. Alors c'est pas un roman engagé, je n'ai pas de message particulier à donner. Cela dit, au travers d'une histoire plaisante, je souligne quand même certaines dérives qui pourraient exister ou qui ont pu exister dans la génétique.
Didier Decoin et Rebecca Liguéry, vous partagez cette visée de la littérature, docere et placere. On fait plaisir, on divertit, mais on enseigne.
Moi, docere, je ne me suis jamais senti dans la peau d'un enseignant ou de quelqu'un qui en savait plus que le lecteur. Mais placere, oui, ça certainement, oui.
Oui, mais on apprend des choses.
Oui, mais n'importe qui peut avoir la même connaissance du Japon que moi. Hein. Il suffit d'acheter des livres.
Voilà.
C'est pas compliqué.
Rebecca Liguéry.
Alors là, pas du tout. Ni docere, ni placere, que ce soit bien clair. Donc docere, surtout
pas. Placere
pas. Mais placere, non. Je prends le risque de déranger, de déplaire. Je pense que mes personnages sont assez ingrats et ce que je raconte, pas toujours très ragoûtant.
Bah, je peux vous dire, votre livre est plaisant quand même. Hein,
bah, quoi tant mieux, par le biais alors. Mais c'est pas ma volonté première. En tout cas, voilà, je n'écris pas bien en tête en me disant tu vas instruire et plaire. Impossible, non.
Voilà, en tout cas, la seule contrainte, c'est cette identité de Rebecca Liguéry, qui vient chambouler l'ordre établi par Emmanuel Bayamaktam. Merci.
Quelle flambée lyrique.
Merci à tous les trois. Merci Pierre Rofast. Merci Didier Decoin.
Merci
Rebecca Liguéry. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Le bureau des jardins et des étangs de Didier Decoin. Plongé dans l'an 1000, le Japon et la belle Miyuki à la grâce d'herbes folles. Rebecca Liguéry et ses deux surfeurs, Tadé et Zaché, l'île de la Réunion, les et une famille de Biarritz qui se délite. Et Pierre Rofast, poursuite d'une baleine sur la mer et expérimentation scientifique, capitalisme plus que naissant d'ailleurs, parfois étouffant, et le dénommé Richville qui se débat au milieu de tout ça. Merci à tous les trois.
Merci, merci Christophe, au et au revoir.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Grégoire Horsinger de la librairie Le Tome 47 à Vitry-sur-Seine, 47 avenue Guy Môquet, donc à Vitry. Bonjour Grégoire Horsinger.
Bonjour Christophe.
Alors nous sommes en plein festival de bande dessinée d'Angoulême et c'est un choix, c'est une bande dessinée que vous nous proposez aujourd'hui. Il s'agit de Scalp d'Hugues Micol. C'est publié chez Futuropolis.
Oui, tout à fait. C'est une bande dessinée que je viens de lire et qui m'a marqué très très fortement graphiquement. Une bande dessinée en noir et blanc. Au premier abord, on a l'impression de pas forcément être très loin de Gustave Doré, de Goya.
C'est très beau,
Des planches vraiment très saisissantes. L'histoire porte sur les États-Unis d'avant de la guerre de sécession.
Oui, il y a un sous-titre, La funèbre chevauchée de John Glanton et de ses compagnons de carnage.
Exactement. En fait, Hugues Micol aime bien le western depuis une bonne vingtaine d'années qu'il fait de la bande dessinée. Et il aime aussi travailler beaucoup sur la narration graphique, avec ou sans texte, dans ses bandes dessinées. Et on va retrouver ces deux propos dans celle-ci, et à mon avis, vraiment porté à son apothéose.
Alors, il est question de quoi ce scalp? C'est le Far West?
C'est le Far West, avant la guerre de sécession, où on va suivre donc ce personnage qui s'appelle Glanton, qui est un personnage qui a réellement vécu, personnage historique. On va comprendre que, ben, il a été mal servi par la vie, et que il n'est bon finalement qu'à tuer. Sa famille, on a l'impression d'avoir tous un petit peu des personnages un peu consanguins et des drames familiaux, des choses comme ça qui vont se dérouler d'année en année. Et en fait, il va s'illustrer lui simplement par la gâchette. Et avant, 30 ans avant la guerre de sécession, on sent déjà beaucoup de troubles. La guerre contre les Mexicains, contre les Indiens et progressivement la guerre de sécession qui s'installe. Et Glanton va proposer ses services aux uns et aux autres. On est particulièrement au Texas, où on va le payer pour éradiquer les Indiens du Texas. Donc chaque scalp d'homme, de femme ou d'enfant va rapporter de l'argent. Et bah évidemment, il va s'illustrer avec ses acolytes dans ce registre. Mais le problème, c'est que bah, il est sans foi ni loi, et il va aller bien bien au-delà, commettre d'énormes exactions, tuer aussi des Mexicains. Et finalement, ses commanditaires bah, vont être bien bien embêtés, et ils vont essayer de le supprimer ou de l'arrêter. Donc il va être obligé de s'enfuir systématiquement, et avec sa horde d'acolytes, on va avoir l'impression d'avoir des sortes de hyènes affamées qui peuvent ressurgir d'un moment à l'autre.
Alors dessin très beau, hein, vous disiez, ouais. Noir et blanc, c'est vrai qu'on a l'impression presque de gravure sur bois.
De gravure, exactement. On a l'impression de retrouver des gravures de la fin du 19e. On a l'impression aussi de s'insérer dans une bande dessinée historique, dans une bande dessinée éventuellement reportage, mais finalement, quand on regarde bien, il y a des choses qui clochent dans cette bande dessinée, où on a l'impression de ne pas avoir ce rythme de la bande dessinée reportage ou des codes du western traditionnel.
Merci Grégoire Horsinger. Je rappelle que vous nous venez de la librairie Le Tome 47 à Vitry-sur-Seine, 47 avenue Guy Môquet, c'est pour l'adresse.
Exactement ça.
Donc j'invite les auditeurs à découvrir votre belle librairie. Vous nous avez parlé de Scalp d'Hugues Micol, c'est publié chez Futuropolis. C'était Le Temps des écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Pierrick Charles à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jour sur franceculture.fr, cette heure que nous avons passée à parler de l'eau avec Didier Decoin, Pierre Rofast et Rebecca Liguéry.